Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Et Simon Martin est à la technique.
Donc en cette période de l'Avent, nous nous souvenons que nous attendons la venue du Christ pour notre monde et dans notre vie. Mais comment faire de cette attente non pas une habitude, mais une brûlure, non pas une idée, mais une nécessité, non pas une croyance, mais une urgence. Face à nos peurs, à nos pesanteurs, à nos lenteurs, nous devons nous affranchir, nous appauvrir, en fait, nous devons nous convertir. Ce matin, mon frère, ma sœur, que brûle en toi le désir de Dieu, que se creuse en toi la soif de Dieu, que grandisse en toi l'attente de Dieu. Et pour que cette œuvre se réalise en toi, la grâce et la paix te sont données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ par son Esprit qui vit en toi.
Dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 29, le roi David dit « J'ai consacré tous mes efforts à faire des préparatifs pour le temple de Dieu. » J'ai amassé de l'or, de l'argent, du bronze, du fer, du bois, pour tous les objets à fabriquer avec ces divers matériaux. J'ai préparé des quantités de pierres de cornaline et d'autres pierres décoratives, des pierres noires et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses ainsi que des blocs d'albâtre. Quant à ma fortune, en or et en argent, je la donne pour la maison de mon Dieu. Je l'ajoute à tout ce que j'ai déjà préparé pour ce temple que j'aime tant. » Et Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, écrit « Vous êtes l'édifice de Dieu. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ et nul ne peut en poser d'autres. Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. » D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille, mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. Si David a mis autant d'énergie à préparer la construction et l'embellissement de son temple, c'est parce qu'il aimait Dieu de tout son cœur. David n'était pas parfait, mais Dieu savait que son cœur était bon. Dieu nous appelle à prendre soin de notre cœur, car c'est lui le temple dans lequel nous adorons Dieu. Et Paul nous encourage à édifier ce temple, non pas avec du bois, du foin ou de la paille, mais avec des matériaux solides et précieux.
Nous prions avant de lire la Bible. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ce témoignage, dans la Bible, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit. C'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce moment de culte, ou de messe, ou de réflexion, ou de méditation, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance, et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes.
Et la lecture biblique d'aujourd'hui se situe dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, les versets 1 à 16. Or, lorsque le roi, il s'agit de David, fut installé dans sa maison et que le Seigneur lui eut accordé le repos alentour face à tous ses ennemis, le roi dit au prophète Nathan, « Tu vois, je suis installé dans une maison de cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente de toile. » Nathan dit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, va le faire, car le Seigneur est avec toi. » Or, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan en ces termes, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que je m'y installe ? Car je ne me suis pas installé dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël et jusqu'à ce jour. Je cheminais sous une tente et à l'abri d'une demeure. Pendant tout le temps où j'ai cheminé avec tous les fils d'Israël, Ai-je adressé un seul mot à une des tribus d'Israël que j'avais établie en paissant Israël, mon peuple, pour dire « Pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une maison de cèdre ?» Maintenant donc, tu parleras ainsi à mon serviteur David. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. C'est moi qui t'ai prise au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu deviennes le chef d'Israël, mon peuple. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu tous tes ennemis devant toi. Je t'ai fait un nom aussi grand que le nom des grands de la terre. Je fixerai un lieu à Israël, mon peuple. Je l'implanterai et il demeurera à sa place. Il ne tremblera plus et des criminels ne recommenceront plus à l'opprimer comme jadis et comme depuis le jour où j'ai établi des juges sur Israël, mon peuple. Je t'ai accordé le repos face à tous tes ennemis. Et le Seigneur t'annonce que le Seigneur te fera une maison. Lorsque tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de toi-même, et j'établirai fermement sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'établirai à jamais son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il commet une faute, je le corrigerai en me servant d'homme pour bâton et d'humain pour le frapper. Mais ma fidélité ne s'écartera point de lui, comme je l'ai écarté de Saül, que j'ai écarté devant toi. Devant toi, ta maison et ta royauté seront à jamais stables, ton trône à jamais affermi.
C'est avec une méditation de notre pasteur Lionel Thébault que nous allons vous parler ce matin du Temple, de l'Arche d'Alliance et bien sûr de Noël. Aujourd'hui, donc, en prenant le texte du jour, notre pasteur a eu à cœur de parler de cette question du Temple et de voir avec vous comment Jésus a modifié la conception d'un vrai culte rendu à Dieu. Parce qu'il semble que c'est de nature à éclairer ce que sa naissance a changé pour nous. Malheureusement, je ne vous ferai pas entrer dans l'histoire archéologique et l'histoire historique, si on peut dire, de cette belle et passionnante aventure. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur le site du Collège de France et à écouter Thomas Römer en parler. Je vais simplement survoler, ou tenter de survoler ce que la Bible en dit. C'est vraiment un survol pour essayer de vous retransmettre ce qui me semble essentiel pour nous aujourd'hui.
Ce texte du deuxième livre de Samuel au chapitre 7 que nous avons entendu tout à l'heure raconte comment le roi David, après avoir fait revenir l'Arche d'Alliance à Jérusalem, se demande comment cette arche va être logée. L'Arche d'Alliance, ce n'est pas rien. Pour les Hébreux, c'est la présence de Dieu. C'est ultra sacré. L'Arche d'Alliance, qui a été construite par Moïse dans le désert, est le symbole du Dieu qui n'est pas figé. Dieu va partout où le peuple va, et le peuple va partout où Dieu va. Ce n'est pas le Dieu d'un territoire, mais le Dieu d'un peuple. L'Arche d'Alliance, c'est un coffre qui ressemble un peu à un cercueil. Il fait à peu près 1,25 m de long et 75 sur 75 environ, sur lequel sont deux statuettes d'anges aux ailes qui se touchent, les kérubim, ce qui a donné chérubin, mais ils ne ressemblent pas du tout à des bébés joufflus. Et c'est un coffre dans lequel on avait déposé les tables de la loi. Pas celles que Moïse a cassées, mais celles que Dieu a remplacées. Bon, j'espère que vous connaissez un petit peu cette histoire, sinon ça va être compliqué pour vous. Ce coffre était recouvert d'or, et on le portait grâce à deux barres latérales. Il était un peu comme un trône pour le Dieu des Hébreux.
En Israël, il y avait 12 tribus, dont les noms correspondaient aux 12 fils de Jacob, pour le dire vite. L'une de ces tribus s'appelait la tribu de Lévi. Les prêtres hébreux devaient être issus de cette tribu, et seuls les Lévites pouvaient porter l'Arche d'Alliance. Lorsque le campement des Hébreux s'installait dans le désert, on montait une grande tente qu'on appelait la tente de la rencontre ou le tabernacle. On y séparait le lieu saint du lieu très saint. L'Arche d'Alliance était déposée dans le lieu très saint, et c'est de là que Dieu parlait à Moïse entre les deux chérubins, d'après Exode au chapitre 25.
Mais dans le livre de Samuel, il n'y avait plus de tente de la rencontre. La tente, c'était du temps de la traversée du désert. Maintenant, les Hébreux avaient leur ville et leur maison, et depuis leur arrivée dans le pays, qui allait devenir Israël, ils avaient cherché un lieu approprié pour y déposer l'Arche d'Alliance. D'abord, l'Arche fut mise à Gilgal, puis à Shittim, puis à Sichem, puis à Bethel. Enfin, c'est une très longue liste de tous les lieux où elle a été, mais il faut retenir qu'on a déposé l'Arche d'Alliance à chaque fois dans des sanctuaires anciens.
Par exemple, quand Samuel enfant est appelé par Dieu pour être prophète, Samuel dort dans un temple à Silo, et dans ce temple, il y a l'Arche d'Alliance. Le temple dans lequel Samuel dort est appelé dans nos textes « Sanctuaire du Seigneur ». Mais un jour, il y a la guerre avec les Philistins qui gagnent et qui volent l'Arche d'Alliance. La Bible nous raconte alors que l'Arche attire la malédiction sur les Philistins et les Philistins n'en peuvent plus et renvoient l'Arche en Israël. Elle demeure à Kiriat et Arim pendant une vingtaine d'années.
Et c'est là qu'elle se trouve quand David, lorsqu'il devint roi, se dit que quand même, Dieu ne pouvait pas rester dans la campagne. Il faut absolument le faire venir à Jérusalem. Bon, il y a eu pas mal de complications que je ne vais pas décrire ici, mais finalement, l'Arche d'Alliance arrive dans la cité de David. Et en voyant l'Arche entrer dans la ville, David sort pour danser de joie, presque nu devant tout le monde. Et ce que sa femme ne va pas apprécier du tout. David se dit, le roi habite dans un palais, mais Dieu habite dans une tente de toile, ce n'est pas normal. Le prophète Nathan, conseiller du roi, lui dit « Réalise tes projets, car Dieu est avec toi. » Mais parfois, même les prophètes peuvent parler trop vite, parce que, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, Dieu va dire à Nathan qu'il ne veut pas d'une maison faite par les mains des hommes. Dieu proclame qu'il n'a jamais habité dans un temple et qu'il n'en veut pas parce qu'il n'en a pas besoin. On ne peut pas enfermer Dieu. Mais quand même, d'après Nathan, Dieu consent à ce qu'un temple lui soit dédié. Il annonce à David que le fils qui va lui succéder règnera pour toujours, même s'il se conduit mal, et que c'est son fils qui bâtira un temple en l'honneur de Dieu.
Pourquoi un tel texte fait-il partie des lectures du lectionnaire, alors que nous sommes dans la période de l'Avent? Ma première hypothèse, c'est qu'on est dans le livre de Samuel et que Samuel a bénéficié d'une naissance miraculeuse. Sa mère Anne était stérile, et lorsqu'elle a mis au monde Samuel, elle a fait de lui un nazir, c'est-à-dire un enfant consacré au Seigneur. Certains exégètes voient dans le mot nazaréen un jeu de mots avec nazir. Anne chante un cantique qui servira de modèle pour le cantique de Marie, qu'on appelle le Magnificat. Je vous laisse le plaisir de comparer le chapitre 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 2, 1 à 10, et l'évangile de Luc au chapitre 1, versets 46 à 55. Mais surtout, il y a dans ce texte toute une théologie qui tourne autour du temple et de la descendance de David.
Durant les 2000 millénaires qui se sont écoulés depuis la naissance de Jésus-Christ, les commentateurs chrétiens n'ont cessé de dire que Jésus était le descendant de David, qui était appelé à régner pour toujours, le fils que Nathan évoquait dans sa prophétie. Il faut bien reconnaître que le fils de David, qui a régné après lui, c'était Salomon, et il n'a pas régné à toujours. Il faut reconnaître aussi que la royauté a disparu en Israël, d'une part à cause des différentes déportations, après lesquelles il a été difficile de trouver un roi qui serait légitime aux yeux du peuple, mais aussi à cause de la destruction de Jérusalem en 70, date à partir de laquelle il n'y a plus eu de roi en Israël. On a donc pris la prophétie de Nathan, et plutôt que de dire qu'il s'était trompé, ce qui est impensable quand on lit la Bible d'une manière littérale, on a préféré spiritualiser la chose en disant que Nathan invitait à regarder plus loin la notion de fils de David.
Et en effet, David figure bel et bien dans les deux généalogies discordantes que nous avons de Jésus. Les évangélistes Matthieu et Luc ont mis David dans les ancêtres de Jésus. Mais il y a quand même quelque chose de bizarre. C'est que les généalogies en question ne sont pas les généalogies de Marie, mais de Joseph. Or, il apparaît que Jésus n'est pas le fils de Joseph. Quel sac de nœuds! Si d'après ces généalogies, Jésus n'est pas le fils de Joseph, c'est qu'il n'est pas non plus le fils de David. Autre difficulté, et pas des moindres, c'est la précision de Nathan quand il dit « Même si ton fils se conduit mal, il règnera pour toujours ». Difficile pour une communauté chrétienne d'admettre que Jésus s'est mal comporté. Bref, la question de la descendance ne nous mène nulle part aujourd'hui. Je préfère me concentrer sur la notion du temple, puisque c'est le fil que j'ai choisi de suivre depuis le début de l'Avent. Le temple, c'est le lieu de la présence divine. Quand Salomon construit le temple, parce que pour le coup c'est bien le fils de David qui l'a construit, ce temple, Salomon crée à l'intérieur une séparation, comme dans la tente de la rencontre, entre le lieu saint et le lieu très saint, où il place l'Arche d'Alliance dans le lieu très saint. Dieu est présent au cœur du temple de Salomon.
Or, nous l'avons vu, Dieu n'a pas besoin d'un temple. Il ne se laisse pas enfermer. Il accepte qu'on lui bâtisse une maison en son honneur, mais Dieu fait ce qu'il veut. C'est un premier point. Et ce point-là, Jésus nous le rappelle quand il discute avec la femme samaritaine dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Je vous rappelle ce dialogue. La Samaritaine dit « Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Crois-moi, continua Jésus. L'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. L'heure vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'Esprit qui conduit à la vérité.
Les extraits musicaux sont du concerto de Noël de Corelli. Donc, je reviens sur ce très beau passage qui indique que pour Jésus, ce n'est pas le lieu qui est important pour adorer Dieu, c'est l'Esprit. C'est donc votre cœur qui importe. C'est là dans votre cœur et là seulement que vous pouvez adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce que nous révèle Jésus le Christ est essentiel pour nous. C'est le signe que Dieu s'incarne dans les êtres humains. Il nous a promis que l'Esprit de Dieu nous serait donné. Et je crois profondément que Dieu vit au cœur de nos cœurs. Si notre cœur est un temple, Dieu y réside dans le lieu très saint. Que Dieu est le fondement de notre être, ce qui veut dire que notre identité est fondée sur Dieu. Vous vous rappelez peut-être que Jésus avait dit, en parlant de son corps, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. » Et que Paul a écrit « Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous sommes le temple de Dieu. C'est de lui que vient la vie vivante et vivifiante, car il est le cep et nous sommes les sarments. »
Donc, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, cela veut dire que nous devons en prendre soin. Pas de manière excessive, bien sûr, mais nous devons faire attention à ce véhicule. Prendre soin de soi, c'est plein de petites choses, comme savoir se reposer, faire un peu d'exercice, se faire des plaisirs sans abuser, se laver, s'habiller d'une manière qui nous plaît, peut-être même se maquiller, se coiffer comme on a envie. Ça veut surtout dire faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on ne fait pas. Et cela veut surtout dire aussi faire attention à l'intégrité de l'autre. On ne va pas mettre la pression sur l'autre pour qu'il s'expose inutilement en ces temps de Covid, par exemple. On ne va pas dire à l'autre comment il doit s'habiller ou comment il doit manger. On ne va pas avoir envers l'autre des gestes déplacés ou violents. Par exemple, vous devez respecter le temple de l'autre. Dieu est saint, ce qui veut dire mis à part. Et nous aussi, nous sommes saints et saintes. Je ne parle pas de morale ici. Je veux dire que par conviction, il y a des choses que vous n'allez pas faire, et il y a des choses que vous allez faire parce que Dieu vit en vous.
Il se peut que Dieu ne vous dise pas exactement la même chose qu'à moi. Ce n'est surtout pas à moi d'en juger. Mais si Dieu vous convainc que, à cause de l'esprit qui habite en vous, vous ne devez plus boire de café, par exemple, je ne peux que vous encourager à ne plus en boire, ce qui ne va pas m'empêcher d'en boire. Mais je ferai attention de ne pas vous tenter avec ma cafetière. Et je ne vous dirai pas « Ah, mais il faut bien vivre », parce que c'est très culpabilisant. Dernier dimanche de l'Avent, donc, pour réaffirmer ce message de l'Évangile, Dieu attend patiemment qu'on le rencontre dans le plus profond de nos êtres et que nos corps soient le reflet de la relation que nous entretenons avec lui.
Pour finir, je veux vous laisser cette image du temple de Jérusalem. Au cœur de Jérusalem, il y avait le temple. Au cœur du temple, il y avait le lieu très saint. Au cœur du lieu très saint, il y avait l'arche d'alliance. Au cœur de l'arche de l'alliance, il y avait les deux tables de la loi. Pour Dieu, au cœur du monde, il y a toi. Dans ton cœur, il y a le temple. Au cœur de ton cœur, il y a Dieu. Et au cœur de Dieu, il y a les deux tables de sa loi d'amour. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le message de Noël. Amen. Il est écrit dans le prophète Malachie : Je le déclare, moi le Seigneur de l'univers, j'enverrai mon messager pour m'ouvrir le chemin. Le Seigneur que vous désirez arrivera soudain dans son temple, le messager de l'alliance que vous attendez, le voici, il vient. Notre Dieu désire que nous fassions bon accueil à son messager dans notre temple. Que le chemin de nos cœurs soit préparé pour sa venue, le voici, il vient. Cette émission se termine. Vous êtes invités à nous rejoindre au culte tous les dimanches matins à 10h30 au temple, 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt. Thank you.